Il y a un point que j'aimerais bien éclaircir. Les virus sont-ils utiles? C'est vrai, quoi. Lorsqu'on en entend parler, c'est toujours en lien avec une maladie plus ou moins atroce. HIV, rhume, hépatite, varicelle, rougeole, Ebola, herpès. Et évidemment, le petit dernier de la famille des virus, responsable d'une pandémie mondiale, le coronavirus. Mais qui sont donc ces entités biologiques? Sont-elles là uniquement pour nous pourrir la vie? C'est quoi le secret des virus?
Ils contredisent les dogmes, ils respectent pas les règles. Quasiment, ça ressemble à des extraterrestres, en fait, au niveau biologique. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent vraiment très différemment des cellules. Et ça, ça m'a vraiment intéressé d'étudier ça.
Le décor est planté. Microsciences. Un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme nos petites questions virologiques en grandes réponses scientifiques et épidémiques. Vous l'avez entendu, Philippe Lemercier est fasciné par l'objet de ses recherches. Il travaille à l'Institut suisse de bioinformatique et il est virologiste. Il fait de la recherche fondamentale sur les virus.
On a pas mal de dogmes en biologie, le support génétique, c'est l'ADN, etc. Et les virus explosent tout ça. Et ils nous en apprennent énormément à travers ça, en fait. En ne respectant pas les règles, ça nous permet de comprendre comment fonctionnent ces règles au niveau biologie moléculaire, etc. Et ça, c'est ce qui m'a fasciné, en fait. C'est justement leur grande diversité, leur souplesse génétique. Et ça m'a vraiment intéressé d'étudier ça.
Depuis 30 ans, il ne fait que ça, le nez dans les virus. Et au passage, il nous livre une première utilité des virus, qui nous en apprennent plus sur le fonctionnement de la biologie moléculaire. Soit. C'est un peu cher payé quand on considère le nombre de maladies que ces tricheurs de virus véhiculent. Ce serait vraiment leur seul avantage? Ça existe? Les virus utiles?
Alors ce qu'on peut dire sur l'utilité des virus, c'est au niveau de l'évolution des espèces. Les virus sont des vecteurs génétiques. Et par exemple, quand nous on veut faire de la thérapie génique, qu'est-ce qu'on utilise concrètement? On va prendre des virus, parce que c'est les meilleurs vecteurs. C'est ceux qui sont capables d'apporter des gènes dans une cellule. Et en termes d'évolution, c'est observé énormément. C'est-à-dire qu'il y a des échanges de gènes entre les espèces qui sont portés par les virus et qui ne pourraient pas avoir lieu sans eux, en fait. Et ça, c'est un grand moteur d'évolution. Dans l'espèce humaine, on a à peu près 5-8% de séquences de rétrovirus dans notre génome, ce qui sous-entend que ces entités génétiques ont joué un rôle dans notre évolution.
Les virus nous ont donc permis d'évoluer. Ils composent 5 à 8% de notre génome. Mais ils font quoi, par exemple?
On connaît un virus qui a joué un rôle dans l'évolution de tous les mammifères et de l'homme. Donc tous les mammifères placentaires ont ce virus qui est utile en permanence à l'être humain. En fait, c'est un rétrovirus qui s'est intégré dans les génomes de mammifères au moment où les mammifères ont été capables de créer un placenta.
Le placenta, je vois bien. Créer un placenta, c'est super utile pour les mammifères. Ça permet de faire des bébés sans devoir pondre des œufs ou d'avoir une poche comme les marsupiaux. Un rétrovirus, je vois aussi. C'est un virus qui va planter son matériel génétique dans notre ADN. Et quelle nouveauté apporte-t-il, ce rétrovirus intégré dans le génome des mammifères placentaires?
Les virus, pour rentrer dans nos cellules, ils font une sorte de fusion. Ils fusionnent leur membrane avec la membrane de la cellule, ça leur permet de rentrer. Et là, en fait, ce que fait la syncytine, donc, qui est une protéine humaine, mais donc qui est d'origine virale, qui est clairement une protéine virale, elle va faire la fusion entre toutes les cellules qui font la paroi entre le sang maternel et le sang fœtal. Et donc, au lieu d'avoir des cellules individuelles qui sont séparées, dans lesquelles il y a des trous, en fait, où des molécules pourraient passer entre les cellules, ben là, on a une seule surface qui est entièrement étanche, grâce à cette protéine virale. Si on avait juste des cellules, il y a quand même des trous entre les cellules et des pathogènes, des produits pourraient passer. Et tous les mammifères ont intégré ces protéines virales et l'utilisent pour faire des enfants, tout simplement.
Il y a donc très très longtemps, un virus nous a permis de perfectionner notre gestation. Certains virus peuvent donc jouer un rôle dans notre évolution.
Un des exemples de rôle des virus dans l'évolution des espèces, on peut citer, c'est le cas d'une limace marine qui s'appelle l'Elysia émeraude. C'est une limace qui est extrêmement spéciale, qui est unique dans le monde animal, puisqu'elle va être capable de faire de la photosynthèse.
une limace, un animal, qui fait de la photosynthèse, qui se nourrit de lumière avec des chloroplastes, ces petites usines qui produisent de l'énergie, comme dans une plante.
Sous forme adulte, la limace, elle se présente sous forme de feuilles vertes. Elle vit de photosynthèse et elle perd même sa bouche et son système digestif, puisqu'elle se nourrit de lumière, tout simplement. Mais ça reste un animal, c'est pas une plante. Alors comment est-ce qu'elle fait ça, cette limace? Quand elle naît, elle n'a pas de chloroplastes, elle n'est pas capable de le faire. Elle va manger des algues qui contiennent ces chloroplastes. Elle va absorber les chloroplastes dans ses cellules. Et dès lors, elle va pouvoir passer au stade où elle va être capable de faire de la photosynthèse.
Et le virus dans tout ça?
Pour mettre ces chloroplastes végétaux dans des cellules animales, c'est pas aussi simple que ça, puisque la cellule végétale, elle a des gènes qui lui permettent d'entretenir le chloroplaste, sinon il meurt. Et c'est quelque chose qu'une cellule animale n'a pas. L'Elysia a acquis ces gènes à travers des rétrovirus. En fait, quand on a séquencé le génome de l'Elysia émeraude, on s'est aperçu que tous les gènes qui permettent de faire fonctionner les chloroplastes dans ces cellules sont entre des séquences de rétrovirus. Donc, d'autres termes, des virus ont permis à cette limace d'évoluer et de pouvoir capturer ces chloroplastes et faire de la photosynthèse. Donc Elysia émeraude n'existerait pas si les virus ne lui avaient pas permis d'évoluer dans ce sens.
Eh ben voilà, on a quand même deux beaux exemples du rôle bénéfique joué par certains virus. Ils nous donnent, à nous les mammifères placentaires et à certaines limaces de mer, un avantage non négligeable. Mais voilà, aujourd'hui, on ne regarde les virus que d'un œil suspect. Ils sont là depuis quand, au fait?
Moi, l'hypothèse qui me paraît la plus probable, c'est que les virus existent depuis le début de la vie, en fait. Donc depuis des milliards d'années. Depuis la première cellule, elle a forcément des virus qui sont tous ensuite différenciés, qui sont passés d'une espèce à l'autre. Et en plus, si on regarde des théories avant l'apparition de la première cellule, on a des éléments génétiques mobiles, et si on regarde, ça ressemble plus à un virus qu'à une cellule de nos jours. Donc il est probable qu'ils existent depuis toujours, qu'ils évoluent depuis des milliards d'années, et un rythme effréné, parce que si on regarde la réplication d'un virus, ça va très très vite par rapport à la réplication d'une cellule. Donc autant dire que le nombre de générations des virus qu'il y a depuis l'apparition de la vie sur Terre est complètement colossal, et ça explique qu'ils ont une biochimie presque plus évoluée que celle des cellules.
Plus évoluée que celle des cellules? Mais d'abord, sont-ils réellement vivants, ces virus?
Ça, c'est une question assez compliquée à répondre, parce que ça revient à la définir la vie. Et on n'a pas une définition vraiment scientifique de la vie. C'est un peu quelque chose de philosophique. Au cours de l'histoire, elle a complètement évolué au fur et à mesure qu'on apprenait ce que c'était que la microbiologie, la biologie moléculaire, etc. Il y a des personnes qui considèrent qu'ils ne sont pas vivants. Il y en a d'autres qui considèrent qu'ils sont vivants. En tout cas, ils sont à la limite de ce qu'on peut appeler vivant. Maintenant, moi, je considère qu'ils font partie de la vie. Maintenant, voilà, la question reste assez ouverte.
Et s'ils sont vivants, j'imagine qu'on ne sait pas quel est leur but.
Le but des virus, c'est le but de toute vie sur Terre. C'est des gènes qui cherchent à se reproduire et évoluer, tout simplement. Mais c'est la version la plus simple et la plus efficace, puisqu'ils sont très petits, ils se reproduisent très vite et ils évoluent beaucoup plus vite que tous les autres. Il n'y a pas de but de rendre malade. C'est plutôt un accident lorsqu'un virus va rendre malade son hôte. En général, il n'a pas du tout intérêt à ça. Il n'a pas intérêt à tuer son hôte non plus, parce que s'il tue trop son hôte, au bout d'un moment, il n'a plus moyen de se reproduire. Donc c'est un peu des accidents, mais si ça n'est pas trop néfaste pour le virus, ça va quand même arriver, en fait.
Oui, ça arrive. J'ai quand même de la peine à ne pas imaginer les virus machiavéliques. Mais bon, je n'ai strictement aucun argument scientifique pour alimenter ma théorie. Le fait est qu'il y en a beaucoup sur Terre, des virus. Combien, au juste?
Alors c'est quelque chose qu'on ne sait pas, parce qu'ils sont tellement petits, microscopiques et difficiles à isoler. On en a classé à peu près 9000, et on sait que c'est qu'une partie de ce qu'on appelle la virosphère, c'est-à-dire tous les virus qui existent sur Terre. Il y a des estimations qui sont faites, ça pourrait être 10 fois plus, 100 fois plus. On ne sait pas. En tout cas, c'est extrêmement facile de découvrir des nouveaux virus. Il y a des gens aux États-Unis, ils ont ramassé de l'herbe. Ils ont fait des analyses dessus, ils ont trouvé 20 nouveaux virus. Donc c'est juste pour dire que la biodiversité est telle qu'on n'en connaît qu'une petite partie.
20 nouvelles espèces, sur de l'herbe? Et sur moi, là, maintenant?
Des virus humains, on en a à peu près une dizaine chacun. Ça dépend des individus, des gens, de la géographie, qui qui sont déjà dans notre corps. Donc on a presque tous des virus de l'herpès simplex, le virus de la varicelle qui reste à vie présent. On a le cytomégalovirus, on a des papillomavirus qui résident sur la peau et qui ne sont pas pathogènes. On a dans le sang des quantités énormes et très variées de torctenovirus, c'est des petits virus DNA simple brun. On ne sait pas du tout ce qu'ils font, ni pourquoi, ils ne font pas de pathologie, mais on les observe et on en a des quantités énormes. Donc voilà, donc on est habité par pas mal de virus en permanence. Dans les poumons, il y a des études qui montraient que dans chaque alvéole, il y a une différente faune virale qui habite. Et ils s'entendent plus ou moins pas entre eux.
Ils ont clairement des problèmes de cohabitation entre eux, et avec nous, parfois. Mais qu'ont-ils donc en commun ?
Ce qu'ils ont en commun, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont obligés d'infecter une cellule pour synthétiser leurs protéines. Donc les virus, c'est des éléments génétiques qui synthétisent des protéines, mais ils ne sont pas du tout capables. Aucun virus n'a les moyens de faire ça lui-même. Donc il doit parasiter un organisme, une entité biochimique qui va synthétiser les protéines pour lui. Donc ça, c'est ce qu'ils ont en commun, en fait.
Eh ben voilà, on n'a qu'à attaquer ce qu'ils ont en commun et hop, on se débarrasse d'un coup de l'herpès, de la varicelle, du VIH, du rhume et du SARS-CoV-2. Et elle est belle, la vie.
Alors c'est simple quand on y pense, mais le problème c'est qu'on est confronté à une biodiversité qui est bien supérieure à tout ce qu'on connaît sur Terre. Et c'est ça qui empêche en fait de faire quoi que ce soit d'universel contre les virus, parce que les virus entre eux, par exemple si on prend le virus du sida, HIV ou le coronavirus, ils sont plus éloignés entre eux que nous on est d'une bactérie. C'est-à-dire qu'en fait c'est des organismes, enfin des entités génétiques qui sont très très éloignées. D'ailleurs, on n'a pas forcément un ancêtre commun entre tous les virus. On pense à un ancêtre commun pour toutes les cellules, mais pour les virus, c'est pas du tout obligatoire qu'on ait un ancêtre commun. Donc de là à faire un médicament ou un vaccin qui pourrait éradiquer tous les virus, c'est impossible, puisqu'ils fonctionnent de façon complètement différente.
Bon, bah, il faut chercher un médicament ou un vaccin pour chacune des 9000 espèces de virus que l'on connaît. Facile.
On peut imaginer trouver un vaccin pour chaque virus, ou plus réellement un antiviral, une molécule qui serait capable d'arrêter la polymérase virale, le virus ne puisse répliquer. Donc ça, c'est possible. Maintenant, au niveau vaccin, alors théoriquement, c'est possible. Pratiquement, ça ne semble pas le cas. Par exemple, HIV, il semble qu'on ne puisse pas, par la vaccination, arrêter HIV. Et pourquoi ? Parce qu'il mute extrêmement vite, hein, il mute beaucoup plus vite que le coronavirus, par exemple. Un vaccin, en fait, vous allez faire entraîner le système immunitaire à reconnaître des molécules. HIV, à la surface de ces molécules, il a des séquences hyper variables. En fait, c'est comme s'il a une espèce de manteau qui peut changer à foison sans que ça change quoi que ce soit dans ses fonctions. Donc, il est capable de fonctionner en ayant n'importe quoi à la surface de ces molécules et il les change en permanence. On les appelle ça hyper variables parce que ça mute tout le temps. Donc, vous entraînez votre système immunitaire à reconnaître un des manteaux d'HIV, ben, il va changer de manteau tout de suite. Et ça se passe très vite. On a testé chez l'animal, si on met un clone d'HIV dedans, en l'espace de quelques jours, on trouve déjà plein de mutants qui circulent. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui fait que ce virus-là, on n'arrive pas à l'attraper par ce biais, en fait.
Zut ! Et moi qui pensais avoir trouvé la solution rapide. Je comprends mieux que ça prenne du temps. Un vaccin n'est pas toujours possible à créer, à cause des mutations, par exemple. Et ça semble compliqué aussi de développer des antiviraux. Sinon, évidemment, on ne serait pas dans cette panade. Mais ce qui m'échappe, moi, c'est pourquoi ils nous rendent malades, ces virus. Si leur but est de se reproduire, ils pourraient le faire discretos et sans nous causer de tort.
Un virus, en fait, c'est un élément génétique qui va rentrer dans votre cellule et qui va exploiter le métabolisme sur place pour se répliquer et sortir. En faisant ça, déjà, il va devoir se battre contre les défenses immunitaires, puisqu'il faut savoir qu'on a à peu près 10% de nos gènes qui sont plus ou moins dédiés à combattre les virus, ce qui est quand même énorme.
Ah bah oui, c'est énorme. En gros, au cours de notre évolution, notre génome a intégré 5 à 8% de gènes viraux et a développé 10% de gènes pour combattre d'autres virus. Je pense que l'humain est incohérent jusqu'au fond de ses gènes. Mais passons.
Donc le virus va devoir se battre contre ça, et du fait qu'il va se reproduire et souvent tuer son hôte en sortant, ce qui n'est pas un détriment pour le virus, ça n'a pas de problème, ça va déclencher des pathologies parce que, par exemple, le virus du sida, Il va se reproduire sur les lymphocytes T, donc des cellules immunitaires essentielles pour nos défenses. Et en se reproduisant, il va les détruire, en fait. À chaque reproduction, il va en détruire de plus en plus, qui ne vont pas pouvoir se renouveler. Et à la fin, l'hôte va finir immunodéprimé. Mais c'est entre guillemets un accident. C'est-à-dire que le virus n'a aucun avantage à le faire. Et à la limite, s'il arrive à évoluer pour ne plus le faire, ce sera meilleur. Donc à terme, on a quand même une tendance où les virus peuvent très bien devenir moins pathogènes au fil du temps, mais ça peut être des milliers d'années, hein, et s'adapter et avoir une meilleure interaction avec l'autre. En fait.
Donc, si on attend que les virus deviennent sages d'eux-mêmes, ça peut prendre des milliers d'années. C'est long. Difficile à ce stade de ne pas évoquer un virus qui nous a pourri la vie depuis 2 ans. J'ai nommé le SARS-CoV-2. Il a quoi de particulier, lui ?
C'est le plus gros virus ARN qu'on connaisse. Donc les virus ARN ont beaucoup plus de plasticité génomique que le virus ADN. Ils peuvent plus facilement muter, etc. Pourquoi ? Parce que l'ARN est beaucoup moins stable, en fait, et ça leur permet d'évoluer beaucoup plus vite. Et comme ils sont plus simples, ils peuvent supporter l'instabilité. Alors qu'un génome humain ne supporterait pas, il y aurait trop d'erreurs catastrophiques. Donc le SARS-CoV-2, c'est le plus gros, puisqu'il fait 30 000 paires de bases. Par exemple, les rétrovirus, c'est 7 000 paires de bases, c'est 7-8 000. Et le virus et l'évolution du virus va beaucoup plus vite que ce qu'on peut suivre en termes de vaccination, par exemple.
Il va plus vite, il mute plus vite, il évolue plus vite. Du coup, si j'ai tout bien suivi, comme les virus ont une tendance à devenir de moins en moins pathogènes dans la révolution, il va s'y mettre aussi, hein, le SARS-CoV-2.
Alors malheureusement, pas tellement, parce que le SARS-CoV-2 n'est pas si pathogène que ça, si on regarde. Le problème qu'on a, c'est qu'on a une très grande population, donc ça fait quand même des dégâts qui sont totalement inacceptables. Mais en termes de la population, il ne va pas éradiquer l'humanité. Donc il n'a pas de pression de sélection pour devenir moins pathogène. Si on prend un virus comme Ebola, qui peut être mortel dans 50% des cas, ou plus dans certaines souches, là, le virus serait forcé au fil du temps à devenir moins pathogène ou disparaître avec son hôte. Mais là, ce n'est pas du tout le cas dans SARS-CoV-2. Mm-hmm. Donc on peut espérer, en fait, qu'il y ait une sorte d'équilibre qui se fasse, c'est-à-dire qu'un virus moins pathogène, comme on peut observer avec l'Omicron, par exemple, il est moins pathogène, il se transmet plus, et dans un sens, il y a une plus grande marge de la population qui commence à faire de l'immunité contre ce virus, et donc on peut de ce fait aboutir sur un équilibre qui est peut-être meilleur pour les deux. Mais on ne sait pas exactement si c'est vraiment ce vers quoi on va ou pas.
On a failli y croire. En gros, il faut espérer qu'un variant totalement inoffensif prenne le dessus pendant une pandémie.
Moi, je vois par exemple l'Omicron. Il est apparu mi-décembre à peu près en Suisse. Et on voit que là, maintenant, le Delta est en train d'être éradiqué, en tout cas localement, par l'Omicron. Et le mécanisme, on ne le connaît pas. Il est potentiellement plus infectieux, que peut-être se répandre plus vite. Et si deux virus infectent un même individu, probablement l'Omicron va gagner par rapport à l'état. Les virus ne s'entendent pas du tout entre eux. Donc quand ils infectent un même hôte, il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est pas, ils ne font pas chambre commune. Et en fait, c'est une question de système immunitaire. Donc ils vont alerter le système immunitaire quand ils arrivent. Et ceux qui vont réussir à éteindre le système immunitaire de sorte qu'eux puissent se répliquer, mais pas forcément ceux qui vont empêcher l'autre de pousser, va prendre le dessus sur l'autre. Donc on a toujours une concurrence très sévère entre les différents virus. On appelle ça la guerre des clones, en rigolant entre nous. C'est-à-dire que quand on met en culture des clones de virus, on observe des clones qui passent devant les uns les autres, et puis après ça change, et puis ça mute, et puis etc.
Notre salut est dans la guerre des clones. C'est déjà ça. Étonnamment, et malgré ma grande motivation, je ne trouverai pas la solution pour mettre fin à une pandémie dans cet épisode. Il y a néanmoins un aspect qui me turlupine. Par le passé, on a déjà éradiqué certains virus, non ?
Donc on a éradiqué le virus de la variole, qui était un pathogène humain extrêmement important. Et ça a été fait par la vaccination. Le dernier cas de variole date de 1978. Et beaucoup de gens sont encore vaccinés. Donc moi, je suis vacciné contre la variole. Maintenant, depuis les années 80, on ne vaccine plus du tout, vu que le virus est éradiqué. Et il y a la polio que l'OMS est en train de faire des efforts depuis 15 ans pour éradiquer. Il y a de moins en moins de cas. Mais il y a encore des cas dans certains pays du monde, comme l'Afghanistan, où on a du mal à pouvoir finir par éradiquer le virus.
Et hop, au moins quelques virus qui disparaissent de la planète. Ils ont bien disparu de la planète, n'est-ce pas ?
Alors on est sûr que non, en fait. D'abord, biologiquement parlant, on éradique un virus, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de virus circulant dans la population humaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans le permafrost, il n'y a pas des virus qui sont encore là et qui sont encore solides. Alors, pour donner un exemple, le virus de la variole, plus vous le congelez, décongelez, plus il est infectieux. Parce qu'il a un système de double membrane et il est plus infectieux si la première membrane est un peu esquintée, en fait. Et ça fait qu'en laboratoire, on fait des congélations, décongélations pour le rendre plus infectieux, pour pouvoir l'étudier. Une cellule, en général, quand elle est congelée, elle a beaucoup de chances de mourir et de ne pas survivre à la décongélation. On a des virus qui, au contraire, adorent ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui peut être comme éléments biologiques viraux qui seraient dans le permafrost, je ne sais pas, dans les glaces quelque part, ils existent encore et ils ne sont pas « morts », entre guillemets. Mais il y a une autre chose qui fait qu'un virus ne disparaît pas, c'est qu'on a les séquences dans les bases de données. Donc même si, par exemple, l'OMS en 86 a appelé à ce que les stocks de variole soient détruits dans tous les pays, bon, déjà, on n'est pas garanti qu'il n'y ait pas certains pays qui aient gardé des stocks pour des questions militaires ou ceci, cela. Mais même si ce n'est pas le cas, on a le génome entier dans les bases de données. Et on est tout à fait capable de reconstruire un virus à partir du génome, puisque ce n'est pas des génomes colossaux, ce n'est pas des génomes énormes. Donc, il ne disparaît pas complètement.
Super. Bon, mais en même temps, puisque les virus sont quand même des moteurs de l'évolution, faudrait-il vraiment tous les éliminer ?
Alors d'un point de vue humain, oui, parce que je pense que personne n'apprécie d'être malade l'hiver régulièrement par tous ces rhumes, etc., voire pire, par d'autres virus plus pathogènes, comme l'hépatite, etc. Maintenant, les virus jouent un rôle dans l'évolution, dans la nature, ils sont présents partout. Donc tout éradiqué, on peut avoir des mauvaises surprises aussi. Hein. Par exemple, on a éradiqué un virus bovin. C'est la peste bovine, donc elle a été éradiquée chez l'animal et on a observé qu'un autre virus, la peste des petits ruminants, qui en fait, il partage une forme d'immunité croisée entre les deux virus. Donc le fait de ne plus avoir ce virus chez les bovins et de ne plus vacciner contre ce virus fait que l'autre, du coup, a commencé à prendre la place. C'est un peu comme des niches écologiques, si vous préférez, mais qui se passent par rapport au système immunitaire. Donc voilà, donc éradiquer un virus, c'est très bien à court terme. Maintenant, il peut y avoir parfois des mauvaises surprises à long terme.
Je ne sais pas pourquoi, mais des surprises, bonnes ou mauvaises, nous risquons d'en avoir encore avec les virus. Ils sont peut-être là pour nous apprendre à vivre. Que vous ont-ils appris, à vous, ces virus ? Écrivez-moi sur microscience@rts.ch. C'est aussi là que vous pouvez déposer toutes les questions scientifiques qui vous démangent.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne ? Pourquoi je dors ? Pourquoi je rêve ? Qui a inventé la seconde ? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre ? Vous voyez la lumière quand j'éteins ma lampe ? Mon ficus essaie-t-il de me parler ?
Avec eux, au moins, les surprises sont plutôt connues. Grégoire Moll, coproducteur, qui évolue sans relâche au gré de ce podcast. Jérôme Nussbaum, à l'habillage musical, qui offre un écran de protection à Microsciences. Et David Golan, à la réalisation, qui débarrasse le son de tous ces parasites inutiles. Et moi, je suis Uma Kamis, journaliste scientifique. Fusionnez votre enthousiasme à propos de cet épisode sur les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé ce podcast, attachez-vous sur Play RTS, Spotify ou encore Google Podcast. Bye bye !